Albert Philippe, 5 mai 83, Rimont.
Quand nous étions arrivés à cette question sur la foi, l'objet de la foi peut-il être quelque chose que l'on sait ? Alors je vous avais rappelé, dans le corps de l'article, saint Thomas montre hein, « Toute science est possédée au moyen de quelques principes qui sont évidents par eux-mêmes et qui par conséquent sont vus. » C'est l'évidence et la vision, vous voyez comme dit saint Thomas. Aussi faut-il que tout ce qui est su, de quelque manière, soit vu. Or, il n'est pas possible, nous venons de le dire, qu'une chose soit par un même individu crue et vue. Il est donc impossible aussi que par un même individu, une même chose soit sue et crue. L'opposition entre la foi qui implique une adhésion à une réalité non évidente et au contraire l'évidence qui est à la source de toute connaissance scientifique. Scientifique dans le sens où l'emploie saint Thomas. C'est-à-dire à partir de principes propres qui sont évidents. Il peut arriver cependant que ce qui est vu et su par quelqu'un soit cru par un autre. Ainsi, ce que nous croyons touchant la Trinité, nous espérons que nous le verrons. Selon la parole de l'apôtre, nous voyons maintenant par un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. Et même cette vision, les anges l'ont déjà, ce qui revient à dire que ce que nous croyons, eux le voient. Pareillement, il peut arriver que ce qui est vu ou su par un homme, même dans l'état présent du voyage, comme pèlerin, soit cru par un autre qui n'en a pas démonstrativement l'évidence. Toutefois, ce qui est proposé communément à tous les hommes comme chose qu'on doit croire, c'est ce qui communément ne fait pas l'objet du savoir. Et ce sont ces points-là qui demeurent purement et simplement sous la foi. Voilà pourquoi la foi et la science n'ont pas le même objet. Ça me montre l'irréductibilité, on pourrait dire ça, entre le point de vue de l'évidence de celui qui sait, de celui qui a la science, et puis le point de vue de la foi, qui est d'adhérer à une vérité, d'adhérer à un mystère qui n'est pas évident pour nous. Et nous y adhérons non pas en fonction de l'évidence, mais nous y adhérons en fonction d'un témoignage. Autrement dit, la connaissance de foi n'est jamais une connaissance directe. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, point de vue épistémologique. La connaissance de foi est toujours une connaissance qui implique un intermédiaire. Il y a un intermédiaire, mais un intermédiaire qui n'est même pas de l'ordre intellectuel. L'intermédiaire qui est une autorité. On croit à un ami qui nous dit telle ou telle chose que nous n'avons pas vue. Et on croit à ce qu'il nous dit parce que lui l'a vu, lui le connaît. Alors nous croyons à ce qu'il nous dit. Il y a toujours donc l'intermédiaire d'un témoignage. Au fond, la connaissance de foi se fait par l'intermédiaire d'un témoignage. Alors, nous avions vu les autres, sauf la dernière objection, tu vois. Alors, je vois tout de suite avec vous la dernière objection, c'est-à-dire les deux dernières. Troisième objection. Ce qui se prouve démonstrativement est su. La démonstration est le syllogisme que l'on sait, ou qui fait savoir, c'est plus juste de dire ça. Syllogisme, faciens scire. Et le syllogisme qui fait que l'on sait. Mais il y a des points contenus dans la foi que les philosophes ont prouvés démonstrativement. Par exemple, que Dieu existe, qu'il est unique, et d'autres du même genre. C'est dire que ce qui est de foi peut être aussi de science. Vous voyez bien, assez gros. Alors, on peut assez facilement comprendre. Réponse. Il se trouve en effet au nombre des choses que l'on doit croire, des vérités qui peuvent se prouver démonstrativement. Ce n'est pas à dire que ces vérités soient objets de foi purement et simplement pour tous. Mais comme ils sont le préambule exigé des choses de la foi, il faut qu'au moyen de ceux qui n'en ont pas la démonstration, il faut qu'au moins ceux qui n'en ont pas la démonstration les présupposent par le moyen de la foi. Donc ça, c'est ce que saint Thomas là donne, c'est un point de vue que saint Thomas aime beaucoup de préciser, qu'il a donné de façon très très longue dans le Contra Gentiles, c'est de voir que pour nous, dans notre credo, que nous récitons officiellement comme ce qui résume toute notre foi, dans le credo, il y a beaucoup de mystères qui sont affirmés et que nous pouvons atteindre par notre intelligence humaine. Le jour où on les atteint par l'intelligence humaine, ils ne sont plus objets de foi, puisqu'ils sont atteints par notre intelligence humaine comme quelque chose qui s'impose à nous. Après avoir lu les cinq voies de saint Thomas sur l'existence de Dieu, vous n'avez plus besoin de la foi qui vous dit que Dieu existe. Si vous êtes suffisamment intelligent et que vous avez compris les cinq voies vous donnent une démonstration a posteriori de l'existence de Dieu. Et l'existence de Dieu, alors, est pour vous un objet, ou plus exactement, une réalité existante qui s'impose à vous. Vous êtes obligé d'adhérer à l'existence de Dieu. À ce moment-là, vous n'y croyez plus. C'est la même chose pour l'unité de Dieu, c'est la même chose pour le Dieu créateur. L'intelligence humaine peut, progressivement, par démonstration, montrer que l'intelligence humaine peut l'atteindre. À ce moment-là, ce n'est plus objet de foi. Alors ne dites pas « ma foi est diminuée ». La foi a diminué dans l'extension des objets, mais pas dans l'intensité. Au contraire. La foi adhère plus proprement à ce qui est directement objet de foi. Ce qui est directement objet de foi, c'est ce que notre intelligence humaine est incapable de démontrer. Qu'est-ce que notre intelligence humaine est incapable de démontrer ? C'est le mystère de la très sainte Trinité, c'est le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de l'Église, c'est le mystère des sacrements. L'intelligence est incapable de démontrer ces mystères. Alors, elle y adhère dans la foi. C'est dans la foi qu'elle adhère à ces différents mystères. Mais elle ne peut pas par elle-même les atteindre. Donc là, je suis en face d'un objet de foi, purement et simplement objet de foi. Tandis qu'au contraire, l'exister de Dieu et l'unité de Dieu et la création n'est pas au sens strict objet de foi, puisque l'intelligence humaine peut l'atteindre. Alors, c'est ce qu'on appellera les preambula fidei. C'est une expression classique qu'il faut connaître. Les préambules de la foi. Les préambules de la foi, c'est-à-dire ce que l'intelligence humaine peut dire du mystère de Dieu. Alors, quatrième objection. D'ailleurs, l'opinion est plus loin de la science que ne l'est la foi, puisque celle-ci est intermédiaire, dit-on, entre l'opinion et la science. Or, l'opinion et la science peuvent avoir de quelque manière un même objet, au dire des seconds analytiques. Donc la foi et la science le peuvent aussi. Alors, c'est le philosophe qui est mis en question. Alors voici la réponse de saint Thomas. Comme le philosophe en fait l'observation au même endroit, de la part de divers individus, il peut y avoir science et opinion sur un point qui soit le même tout à fait. C'est exactement ce que nous venons de dire à propos de science et de foi. Quelqu'un qui a vu certaines choses, comme moi je ne les ai pas vues, celui qui les a vues, peut me les raconter. Je crois à ce qu'il dit. C'est objet de foi pour moi. De foi humaine, mais c'est objet de foi humaine. Pour lui, il l'a vu. Donc c'est pas objet de foi. Aucune question, ça, c'est évident. Notre champ d'action est différent les uns des autres. Quelqu'un qui fait des sciences et qui a l'évidence de certaines conclusions scientifiques, quelqu'un qui n'a pas fait ces mêmes sciences, ben, il croit à l'autre, il dit, je sais que tu es sérieux, tu ne me dis pas de bêtises, alors j'y crois. C'est objet de foi. Dans un enseignement métaphysique, pour le professeur, quand il parle de l'ousia et de la substance, c'est évident. Donc ce n'est pas objet de foi pour lui, c'est évident. Mais pour les étudiants, avant que ce soit évident, ça met du temps. Alors avant, opportet, il faut avoir la foi. C'est ce que saint Thomas dit, et ça, il le dit à la suite d'Aristote du reste. Dans toute connaissance, il faut qu'au point de départ, il y ait la foi. Et c'est vrai ça, au point de départ, il y a la foi. On fait confiance. On fait confiance pour qu'un jour on ait l'évidence. Et un jour on a l'évidence. Et c'est pas quand on a l'évidence qu'on fait moins confiance à celui à qui on fait confiance avant. Pas du tout. Tout le but de l'enseignement, c'est de conduire les étudiants à voir l'évidence. Le but de l'enseignement n'est pas de maintenir les étudiants en tutelle, comme c'était, voyez, une obligation de maintenir les gens en tutelle. Alors, on a à ce moment-là une méthode disciplinaire qui consiste justement à dire « je vous maintiens en tutelle parce que moi seul je suis capable de voir, tandis que vous incapable ». Non, pas du tout. Le propre de l'enseignement, c'est de faire que progressivement les étudiants aient l'évidence et n'aient plus besoin de l'enseignement. Parce qu'ils auront l'évidence. Alors, ils pourront enseigner d'autres. Tandis que s'ils n'ont pas l'évidence et qu'ils adhèrent à cause, ce n'est qu'une opinion. C'est très difficile d'enseigner quand on n'a qu'une opinion. Alors à ce moment-là, on a une frousse intense de toutes les objections qu'on peut poser. Surtout, ne posez pas de questions. Surtout. Parce que, je ne sais pas ce que je vous répondrai, je ne peux que répéter ce qui m'a été dit. Je vous avais dit ça, pas, ce bon professeur de théologie, quand j'avais posé des questions sur les cinq voies, il m'a dit, je vous dis ce que saint Thomas dit. Il dit, mais est-ce que vous avez compris? Je vous dis ce que saint Thomas dit. J'ai pas eu d'autre réponse que celle-là. Il dit, mais est-ce que vous avez compris? Je vous dis ce que saint Thomas dit. À ce moment-là, vous voyez, c'est celui qui répète, le répétiteur. Pas très intelligent, parce qu'un vrai répétiteur intelligent va dire, oui, j'ai compris certaines choses. C'est bien difficile, c'est pas commode, essayez de comprendre. Vous voyez, c'est... Donc, il n'y a aucune impossibilité à ce que pour certaines réalités soient objet de foi, et que pour d'autres, ce soit connu par la science. Mais, de la part d'un seul et même individu, il peut bien y avoir foi et science sur un objet qui soit le même dans un certain sens, c'est-à-dire dans sa matérialité, mais pas sous le même aspect. Il se peut en effet qu'au sujet d'une seule et même réalité, quelqu'un ait de la science sur un point et une opinion sur un autre. Ça, c'est les objets formels qui distinguent. On peut connaître telle réalité sous un aspect formel et pas le connaître sous un autre. Et donc, sous cet autre aspect, ce sera tout simplement objet de foi. Ou bien opinion. Eh bien, semblablement, au sujet de Dieu, quelqu'un peut savoir par démonstration qu'il n'y a qu'un Dieu et croire qu'il y a trois personnes en Dieu. Matériellement, c'est le même Dieu auquel j'adhère, hein, mais je le saisis sous des aspects différents. Là, il faut faire attention, il ne faut pas entrer dans le point de vue de Pascal, le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens. Parce que pour Pascal, c'est deux réalités différentes. Hein. Alors, le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens. Non, si le Dieu des philosophes n'est pas celui de Descartes, c'est le même. Si c'est celui de Descartes, ce n'est pas le même. C'est pour ça que Pascal dit ça. Seulement, il s'agit d'un objet qui soit le même sous un même aspect. la science ne peut se rencontrer au même moment, dans le même individu, ni avec l'opinion, ni avec la foi. Bien que cependant, pour des raisons différentes, la science en effet ne peut se rencontrer en même temps, la science en effet ne peut se rencontrer en même temps que l'opinion sur un point qui soit tout à fait le même. Pour cette raison qu'il est essentiel à la science que lorsqu'on sait vraiment une chose, on n'ait pas idée que ce puisse être autrement. Tandis que l'idée qu'une chose peut être autrement qu'on ne pense est ce qui fait l'essence même de l'opinion. Mais ce qu'on tient de la foi, à cause même de la certitude qu'elle implique, on estime aussi que ce ne peut être autrement. Néanmoins, la raison qui fait qu'on ne peut simultanément, sur le même point et sous le même aspect, savoir et croire, c'est que la chose sue est une chose vue, tandis que la chose crue est celle qu'on n'a pas vue. Telle a été la conclusion de cet article. Donc Saint Thomas répète tout simplement la même affirmation que dans l'article. Oui.
Est-ce que dans la suite de cette dernière réponse, on pourrait dire que la grâce, je prends l'exemple du mystère de la grâce, on peut reprendre la loi divine,
oui.
On la grâce, est d'une certaine façon objet de foi en tant qu'elle dépend de notre vocation culturelle, et d'une autre façon, elle est objet de science en tant que, c'est ce que Saint Thomas semble faire en étudiant la grâce, en tant qu'elle est condition sine qua non, donc elle est nécessaire pour répondre à cette vocation.
Ah oui, mais répondre à la vocation de foi.
Ah oui, donc d'une certaine façon, c'est toujours objet de foi.
Oui, donc c'est toujours objet de foi, donc c'est pas... Ah oui, ah, science théologique. Alors je dirais, vous voyez, on pourrait dire ça comme ça. Je regarde le mystère de la grâce. Pour le chrétien, on est tous des chrétiens. Bon. Pour le chrétien, la grâce est objet de foi. Ce chrétien peut être un théologien. Peut-être un théologien, ce chrétien. Alors, ce chrétien, en tant que théologien, va-t-il avoir sur la grâce une évidence? Parce que la grâce sera saisie comme une conclusion. C'est bien ça que vous posez. Donc, à ce moment-là, ce sera évident. Vous voyez le problème, hein ? Alors, comprenez que la théologie repose entièrement sur la foi. Si la théologie repose entièrement sur la foi, l'évidence que j'ai de la grâce au point de vue théologique est une évidence qui elle-même repose sur la foi. Hein ? Donc, au fond, c'est autre chose. Puisque la théologie est une science subalternée à la science des saints. Si elle est subalternée à la science des saints, elle est donc totalement dépendante de la science des saints. La science des saints, c'est la vision béatifique du Christ. Elle est subalternée à la science des saints. Donc, je n'ai pas une évidence comme pour une autre science. J'ai une évidence médiatisée par la foi. Et donc, si cette évidence est médiatisée par la foi, le mystère de la foi, l'adhésion de foi à l'égard de la grâce demeure. Oui. Et donc, ça ne supprime pas la foi. La conclusion théologique me donne une certaine évidence médiatisée par la foi, et parce que cette évidence est médiatisée par la foi, cette évidence ne supprime pas la foi. Et cette évidence est autre chose que la foi. Donc elle porte bien, si vous voulez, sur le même mystère primatériellement, et je vois la grâce par rapport à ma vie, par rapport à ma béatitude. La grâce est nécessaire pour atteindre la vision béatifique. Elle est nécessaire pour que je sois enfant de Dieu. elle est nécessaire pour que je sois parfaitement heureux. Donc là, je viens un lien de nécessité. À l'intérieur de la foi, je découvre un lien de nécessité. Ce lien de nécessité est évident, mais il est à l'intérieur de la foi. Oui. Donc, c'est une évidence médiatisée dans la foi. Je dirais, à l'intérieur du mystère de la grâce, il y aura donc la grâce à laquelle j'adhère comme un mystère qui me dépasse complètement, et à l'intérieur de ce mystère, l'évidence, la conclusion théologique, qui me donne une certaine évidence, présupposant la foi, ne me donne pas l'évidence de l'existence, me donne uniquement l'évidence d'un lien avec un autre mystère. Et donc toujours à l'intérieur de la foi. Mais elle me donne l'évidence, donc elle me donne l'évidence beaucoup plus d'un ordre que par rapport à la grâce. C'est la grâce par rapport à autre chose. Oui. Que par rapport elle-même à la grâce. Hein. C'est le propre de l'évidence du théologien, c'est une évidence qui porte sur l'ordre qui existe entre les différents mystères. Dans les différents mystères, il y a un ordre, il y a une harmonie. Et c'est l'évidence que j'ai vis-à-vis de cette harmonie que me donne le théologien. Il met en relation tel mystère avec tel autre mystère. Donc, ce n'est pas une évidence qui porte sur le mystère, mais sur tel mystère avec tel autre mystère. Alors, oui.
Est-ce qu'on pourrait établir une certaine hiérarchie entre ce qui est vraiment objet de foi ?
Ah oui, ben, c'est évident qu'on établit une hiérarchie parce qu'on établit un ordre.
Le premier, là,
la très sainte Trinité.
Mais pourquoi pas Jésus, considéré comme fils de Dieu ?
Oui, mais Jésus, fils de Dieu, est inséparable de la très sainte Trinité. Non. Le mystère du Christ est tout entier tendu vers le Père. Entier. Et donc, c'est le mystère de la très sainte Trinité qui est premier. La grâce, faisons attention, vous voyez, je vois très bien votre difficulté, excusez-moi, je crois la saisir. C'est que vous regardez par rapport à vous. Le Christ est votre médiateur qui vous introduit dans la très sainte Trinité. Mais le Christ vous introduit dans la très sainte Trinité pour que la très sainte Trinité soit la première réalité que vous regardiez. La foi est objective, elle n'est pas subjective. C'est très vrai que c'est par le Christ que vous êtes sauvés, ça c'est sûr, c'est par le Christ que vous êtes sauvés, mais vous êtes sauvés pour regarder la très sainte Trinité. Et donc, si je veux hiérarchiser mes objets de foi, alors je pourrais dire, je peux hiérarchiser mes objets de foi par rapport à moi et par rapport objectivement, vous voyez ? Alors j'en ai deux ordres, mais si je veux dire hiérarchiser mes objets de foi, c'est les objets de foi que je considère en eux-mêmes. Le mystère de la très sainte Trinité, le mystère du Christ, le mystère de Marie, le mystère de l'Eucharistie, le mystère de l'Église. Et successivement, vous hiérarchisez. Et c'est bon de voir ça, parce que c'est quand même nécessaire.
Saint Thomas l'Aquin,
Toute la somme. Toute la somme, c'est ça, c'est de montrer ça. Alors il commence par le mystère de Dieu, parce que c'est plus intelligible pour nous. C'est pas le premier, c'est le premier quand même, c'est Dieu. Dieu, la Trinité, la création. Vous voyez ? Alors c'est un ordre, je dirais, par rapport à la révélation, et il ne prend pas le souci de dire « Maintenant, regardons quel est l'ordre qui m'est donné en travail de son mystère. » Mais c'est impliqué dans toute sa recherche. Oui, contre-réalité se fait tout à fait. Oui. Parce que le contre-réalité, c'est le meilleur parti. Ce que l'intelligence humaine peut saisir par elle-même, ce qu'elle dit par la foi, elle voit les différents mystères. Alors, article 6. Les choses à croire doivent-elles être distribuées en de certains articles ? Alors ici, évidemment, c'est moins important. Je vais le lire quand même très vite avec vous, parce que c'est moins intéressant au point de vue strictement de l'étude de la foi. Mais c'est intéressant au point de vue de ce que représente la communauté chrétienne. Il y a cette définition d'Isidore. Quand saint Thomas remonte à Isidore, évidemment, c'est quelque chose de très important. L'article est une façon de percevoir la vérité divine qui nous oriente vers cette vérité même. Or, la vérité divine ne peut être perçue par nous que suivant une certaine division. Ce qui en Dieu est un dans notre intelligence, devient multiple. Les choses à croire doivent donc se distribuer en articles. Ce mot « article » paraît être dérivé du grec. Effectivement, « arctron » en grec, qui se dit « articulus » en latin, signifie une certaine coadaptation de parties distinctes. Les articles, ce sont des parties organiques. Une coadaptation des parties distinctes. C'est ainsi que les parties du corps qui sont coadaptées les unes aux autres forment ce qu'on appelle les articulations des membres. Oui, article, articulation. C'est l'articulation vivante de la foi, les articulations. Alors quelquefois, il y a des articulations qui sont squelettiques. Le credo récité, le... Dans certaines communautés, c'est squelettique, c'est les articulations, justement. Puis de temps en temps, il y a de la chair qui vient à s'ajouter. Alors c'est, il y a quelque chose de plus onctueux, qui donne quelque chose de mieux. Et de même, en grammaire, chez les Grecs, on appelle article certaines parties du discours qui sont coadaptées à d'autres mots pour en exprimer le genre, le nombre et le cas. Pareillement, en rhétorique, on appelle article certaines adaptations d'éléments. C'est articulé, dit Cicéron, lorsque chacun des mots est bien mis en valeur par de bons intervalles avec les coupures voulues dans un discours en cette manière-ci, par ton énergie, ta voix, ton regard, tu terrifies tes adversaires. C'est de là qu'on est parti pour formuler une distinction par article dans les choses mêmes de la foi chrétienne. Oui. Dans les choses mêmes que la foi chrétienne donne à croire, en tant qu'elles sont précisément distribuées en des parties ayant entre elles quelques adaptations. Or, ce qui est objet de foi, nous l'avons dit, c'est quelque chose d'inévident, d'essentiellement divin. De ce fait, partout où se présente quelque chose qui est inévident par une raison spéciale, c'est là un article spécial. Au contraire, là où de multiples choses sont contenues ou inconnues, là où de multiples choses sont connues ou inconnues sous une autre raison, il n'y a pas à les mettre en article distinct. Ainsi, il y a une difficulté à voir que Dieu ait souffert, et une autre à voir qu'une fois mort, il soit ressuscité. C'est pourquoi on distingue l'article de la résurrection avec celui de la passion. Mais qu'il ait souffert, qu'il soit mort, et qu'il ait été enseveli, ces points n'offrent qu'une seule et même difficulté, de sorte que l'un d'eux étant admis, il n'est pas difficile d'admettre les autres. C'est pourquoi tout ceci se rattache à un seul article. Donc il y a cette idée très importante que saint Thomas souligne, c'est que l'article de foi implique une difficulté particulière au point de vue de la foi. C'est pour ça qu'on distingue les articles. On les distingue comme des articulations qui nous donnent la totalité du mystère. Alors, je crois que ce n'est pas la peine de voir les difficultés. Il y a peut-être une question intéressante après. C'est le symbole de foi. Là, j'ai envie de prendre les deux derniers articles, article 9 et article 10. Et je prends l'article 10 et vous allez voir ce que saint Thomas va nous dire. Alors, ça, c'est le symbole de foi. Bon, il y a deux choses différentes à voir. C'est l'article, donc l'article qui forme une unité par rapport à la foi, une difficulté spéciale, un mystère particulier qui exige un dépassement pour nous. Et puis, le symbole de foi. Alors, le symbole de foi représente l'ensemble des articles. Hein. L'apôtre le dit, donc 9. Et je prends tout de suite au corps de l'article. Lorsqu'on s'approche de Dieu, il faut croire. Croire, nul ne le peut si la vérité qui doit faire l'objet de sa foi ne lui est bien proposée. C'est pourquoi il a été nécessaire de rassembler en un tout la vérité de foi afin que la proposition en pût être faite à tous plus facilement et que personne ne fût en défaut par ignorance à l'endroit de ce qui est vérité de foi. Eh bien, c'est cette espèce de recueil des sentences de la foi qui a pris le nom de symbole. Oui, symbole de foi, c'est pas symbolon, hein, c'est pas le symbole de foi, c'est pas le symbole. C'est tout simplement l'ensemble des articles qui donnent l'organisation plénière de la foi parfaite. Alors, article 10, appartient-il au souverain pontife de constituer le symbole de la foi ? Ne lui est bien proposé. C'est pourquoi il a été nécessaire de rassembler en un tout la vérité de foi afin que la proposition en pût être faite à tous plus facilement et que personne ne fût en défaut par ignorance à l'endroit de ce qui est vérité de foi. Eh bien, c'est cette espèce de recueil des sentences de la foi qui a pris le nom de symbole. Oui, symbole de foi, c'est pas symbolon, hein, c'est pas le symbole de foi, c'est pas le symbole. C'est tout simplement l'ensemble des articles qui donnent l'organisation plénière de la foi parfaite. Alors, article 10, appartient-il au souverain pontife de constituer le symbole de la foi ? Important de se rappeler ça aujourd'hui. Est-ce qu'il appartient au sauveur ? Est-ce que le Saint-Siège peut modifier la liturgie de l'Eucharistie ? Oui, c'est les mêmes questions. Alors, c'est intéressant de voir ça, c'est pour ça que je le donne ici. C'est un article très important, cet article 10. Conclusion. Une publication nouvelle est nécessaire, avons-nous dit, pour parer à des erreurs qui surgissent. Elle appartient donc à l'autorité de celui qui a justement autorité pour définir en dernier ressort ce qui est de foi. Et le définir de telle sorte que tous n'aient plus qu'à s'y tenir d'une foi inébranlable. C'est précisément le souverain pontife qui a autorité pour cela. C'est à lui que sont portées les questions dans l'Église les plus graves et les plus difficiles, comme on l'a dit dans les décrétales. Pour nous, nous avons un argument encore beaucoup plus fort, hein, avec Vatican I, l'infaillibilité du souverain pontife. C'est intéressant de voir ce que dit saint Thomas, sans que l'infaillibilité ait été précisée. D'où la parole du Seigneur à Pierre, lorsqu'il l'a constitué souverain pontife. « J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne soit pas en défaut. Et toi, une fois revenu, confirme tes frères. » Et c'est à partir de là que les théologiens se sont posés la question, est-ce que le souverain pontife peut être hérétique ? C'est une très vieille question, ça. Hein, très vieille question que les théologiens se sont posées. C'est pas étonnant que les théologiens se posent cette question-là. Ça. C'est une question intéressante. Et la raison de ceci, c'est qu'il ne doit pas y avoir Et la raison de ceci, c'est qu'il ne doit y avoir qu'une seule foi dans toute l'Église, suivant la recommandation de l'apôtre. Dites bien tous la même chose, et qu'il n'y ait point de schisme parmi vous. Une pareille unité ne pourrait être sauvegardée si une question de foi soulevée en matière de foi ne pouvait être tranchée par celui qui préside à toute l'Église. Et trancher de telle sorte que toute l'Église n'ait plus qu'à se rallier fermement au jugement qu'il aura porté. Oui, comme c'est net, hein. Et c'est en matière de foi. C'est pourquoi seul le souverain pontife a autorité pour une nouvelle publication du symbole, comme du reste, pour toutes les autres choses qui intéressent toute l'Église. Par exemple, réunir un concile général et d'autres affaires du même genre. Les autres affaires du même genre, ça c'est... Mais réunir un concile, l'Église universelle. Mais je crois que c'est très intéressant cet article que saint Thomas met ici, pour que nous comprenions mieux l'autorité du souverain pontife. C'est maintenir l'unité de l'Église et de déterminer ce qui est objet de foi. Donc, a fortiori, le point de vue de la liturgie. Oui. Oui, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a un lien plus immédiat. Comme l'Immaculée Conception. Sûrement, un nouvel article. Oui, oui, ça c'est. Je crois que c'est par souci de ne pas diviser trop. Vous voyez ? On maintient le symbole qui maintient une unité dans l'Église. Dans, vous voyez, les diverses églises. Si vous ajoutiez ça, alors à ce moment-là, il y aurait pas. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est un souci d'un père qui veut maintenir l'unité quand il sait la fragilité, si vous voulez, de certains. Mais je crois qu'on peut dire qu'il y a dans le mystère de l'Immaculée Conception une difficulté propre à ce mystère. Ça, c'est sûr.
Oui. Est-ce que simplement il n'est pas explicité pour la simple bonne raison qu'il est convenu virtuellement dans
le précité ? Ah oui, c'est un article nouveau qui s'explicite. Hein. Il y a une définition, donc, au sens rigoureux. Si je veux rassembler tout ce qui est dans ma. Tout ce que je dois croire en tant que catholique, le symbole de foi devrait l'appliquer. Je crois que c'est. Je crois que c'est plutôt une raison pratique. C'est par rapport au gouvernement de l'Église. Beaucoup plus. Alors, il y a un nouveau dogme qu'on affirme, ça c'est la poussée de la grâce. Mais en même temps, au point de vue pratique, on ne veut pas toucher à ces symboles qui sont des symboles de l'Église tout à fait primitifs. Oui, il me semble. Parce que le symbole est fait pour l'unité. Hein. C'est fait pour l'unité, c'est fait pour maintenir une foi unique à travers toute l'Église. Oui, on a maintenu le filioque. Oui, c'est évident. On a maintenu le filioque parce que le filioque, mais c'est quand même assez tardif comparativement à l'Immaculée de Conception. Quoi ? C'est assez tardif le filioque. Qu'est-ce qu'il y a ?
Pourquoi est-ce qu'on l'a vu ?
Parce que l'Église, à ce moment-là, l'a considéré comme devant être vu, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison, c'est que l'Église a considéré à ce moment-là, il n'y a pas d'autre raison, c'est l'Église elle-même qui se gouverne et qui juge de devoir le faire. Vous voyez ? Alors le théologien peut essayer de comprendre des raisons, mais au fond la vraie raison c'est que l'Église est menée par l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint à un moment donné pousse. C'est comme l'Immaculée Conception, pourquoi c'est arrivé à telle époque ? Comme la faillibilité du Saint-Père. On voit bien certaines raisons, vous voyez, mais il n'y a pas de raison au sens propre. Je crois que c'est l'Église mue par l'Esprit-Saint. Je crois que c'est pas autre chose que ça. Vous voyez, c'est pas parce que, de fait, c'est parce que l'Église, par le filioque, voulait montrer davantage le mystère de la Très-Sainte Trinité dans son unité. Vous voyez. Alors aujourd'hui, on sait très bien qu'on revient sur cette question pour savoir si vraiment le filioque fait partie intégrante de la foi de l'Église. Oui. Vous voyez ce que dit Père Congas, ce que dit Père Miguels là-dessus, qu'ils essaient par rapport aux orthodoxes de trouver, vous voyez, une possibilité de dire que le filioque, après tout, le livre du Père Miguel, c'est un point de vue-là, est très intéressant parce qu'il montre bien l'histoire du filioque. On pourrait discuter de tel ou tel petit passage qui me semblerait qu'on devrait reprendre, mais qui serait intéressant du reste à reprendre. Parce que c'est quand même un des sujets importants aujourd'hui, vous voyez, sûrement. C'est un des sujets sur lesquels l'Église nous demande d'être attentif, puisque on sait que pour les orthodoxes, un sujet particulièrement délicat. Oui.
Est-ce
Saint Thomas, dans son œuvre sur le credo,
oui.
Il dit que c'est plus juste de dire je crois au Saint-Esprit animant qui anime l'Église que de dire je crois à l'Église. Je me demande pourquoi il dit ça.
Ben oui, parce que c'est plus explicite.
Il fait deux,
je crois à l'Église vivifiée par le Saint-Présent. C'est, on comprend. Oui, c'est explicite, c'est tout. Oui, c'est une explicitation plus nette. Je ne peux pas croire à l'Église sans croire à l'Esprit Saint qui vivifie l'Église. Donc c'est impliqué dedans. Oui, alors, on l'explicite, et ça, le théologien l'explicite. L'Église le fait ou le fait pas, mais le théologien peut l'expliciter. Vous voyez, c'est un commentaire qu'il fait. C'est, Saint Thomas a conscience que lui ne peut pas modifier le symbole. Il le sait. Il le sait que le théologien et le serviteur ne peuvent pas. Seule l'autorité du souverain pontife peut modifier le symbole. Oui. Parce qu'il parle au nom de l'Église universelle. Parce qu'il parle pour toute l'Église. Alors il peut. Le théologien ne peut qu'expliciter. Et montrer le lien de tel article avec tel autre article. Donc montrer le lien entre l'Esprit Saint et Jésus. Oui. Bon, je crois que ça n'offre pas d'autres difficultés, mais quand même c'est intéressant. J'aime bien de relire cet article 10 aujourd'hui pour dire à ceux qui sont, vous voyez, dans une position traditionnaliste, un peu en opposition vis-à-vis du pape, de leur montrer qu'ils ne sont pas dans la tradition. Parce que toute la tradition a reconnu que le pape avait ce pouvoir. Et donc supprimer cela, c'est contraire à la tradition. Je crois que c'est l'argument le plus fort qu'on peut leur donner. C'est de montrer que de fait, s'opposer au Saint-Père par rapport à la réforme liturgique, par rapport à la messe, c'est refuser au pape le pouvoir de ça, et bien c'est contraire à la tradition. Or ils le font au nom d'un traditionnalisme et au nom d'une fidélité de la tradition, et en faisant ça, ils eux-mêmes ne sont pas dans la tradition. Quelqu'un qui est dans la tradition accepte que le Saint-Père peut. C'est le pouvoir souverain du Saint-Père. Il est chef de l'Église. Et alors, en tant que chef de l'Église, il a la possibilité de modifier le symbole de foi. Il a la possibilité de modifier le point de vue de la liturgie. Comme le point de vue pratique. Oui.
Il paraît que le pape, quand il avait invité les enfants,
oui, oui, je sais.
N'avait pas prononcé le Filioque.
Non, c'est parce qu'il y a les deux symboles. Il y a un symbole antérieur qu'il avait dit, on peut le faire. Vous voyez ? Et il l'a fait par gentillesse.
Je sais. Il y a des gens qui, du coup, prennent ça comme un bureau.
Non. Le Saint-Père n'a jamais dit supprimons le Filioque. Le Saint-Père a simplement fait, parce qu'il y a les deux symboles, on peut l'employer l'un ou l'autre, je peux employer le symbole plus ancien, vous voyez, qui n'implique pas le filioque. Et puis je peux employer le filioque, qui est le symbole qu'il a précisé ensuite, vous voyez. Alors, on a interprété ça, c'est très bien. Je crois que le Saint-Père l'a fait pour montrer, au point de vue paternel, vous voyez, son amour pour les orthodoxes, et l'ouverture dans laquelle il voulait maintenir ce contact avec eux. Vous voyez ? Et que c'est sûr que c'est un des sujets sur lequel le Saint-Père demande aujourd'hui aux théologiens spécialistes de l'Orient de se pencher d'une façon très particulière. Ça, il le demande. Alors, tous les théologiens peuvent le faire, c'est évident, mais c'est surtout les théologiens spécialisé de la question de l'Orient. Alors, c'est une question historique, c'est évident, c'est une question historique, de savoir exactement comment a été jeté le filioque. Alors, certains disent que c'est une question politique, ça importe peu. L'Église l'a considéré comme telle. Oui, c'est comme ceux qui disent le Saint-Père a changé le canon de la messe sous la pression des protestants. Ça, c'est regarder le conditionnement sans regarder la détermination. Il présente la détermination, mais il a subi des influences. Il a pu demander conseil, il a le droit de demander conseil. Il a droit de demander conseil, même aux protestants, de savoir si tel ou tel canon serait plus proche d'eux. Et il peut le faire pour être le plus proche possible d'eux. Et demander à tous les fidèles à ce moment-là un acte de confiance et d'amour pour se rapprocher des protestants. Vous voyez ? Comme il peut demander un acte d'amour de se rapprocher des orthodoxes. Et donc, quand on est avec eux, puisque le Saint-Père l'a fait, on prend l'autre symbole pour ne pas les blesser. Mais ça ne veut pas dire que l'Église ne maintient pas. Vous voyez, à ce moment-là, on dit peut-être que le Saint-Père acceptera l'unité des Églises sans leur demander ça. C'est possible. Et que d'autres affirment le point de vue du filioque. Mais je ne crois pas du tout que le Saint-Père supprimera le filioque, vous voyez, de la foi de l'Église catholique. Mais il peut très bien demander à ceux qui sont orthodoxes de dire, eh bien oui, j'accepte que vous restiez à ce symbole-là. Oui. Non, il peut, par exemple, dire, en raison de telle ou telle chose, il vaudra mieux pour les fidèles reprendre ce symbole premier. Non, pas supprimer, ça existait. Vous voyez, ça existait, c'est comme pour la messe Saint-Pie-V. On ne peut pas la supprimer au sens rigoureux. Elle a existé dans l'Église, et elle est. Oui. Alors ce qu'il peut, c'est d'un point de vue juridiction, dire ne l'employez plus. Mais elle existe. Elle n'est pas supprimée. Quand on dit qu'elle est supprimée, c'est faux, elle n'est pas supprimée. C'est l'aspect juridique qui est demandé dans l'obéissance. C'est deux choses différentes. Hein.